Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dawani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Hallo du monde.
Chienne Berry. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Cherté des produits de première nécessité à Bamako, les clients et les commerçants disent ne pas comprendre cette augmentation soudaine des denrées alimentaires. L'huile, la viande, les œufs ne sont plus à la portée des plus démunis. Les populations interpellent l'État. Pour en parler, nos invités sont Monzon Kone de la Direction nationale de la consommation, du commerce et de la concurrence. Il est au téléphone. Mariam Kone du Front contre la vie chère. Abdoul Karim Djamoutene, docteur en économie. Abdoul Wahab Djakite de l'ASCOMA. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Avant de rentrer dans le vif de cette émission, je vous invite à écouter ce reportage.
Cette augmentation a commencé il y a quelques jours. Dans plusieurs marchés du district de Bamako, le prix du kilogramme de la viande varie entre 3 000 et 3 500 francs CFA. Quant à l'huile alimentaire, le litre est cédé à 1 100 francs CFA. Les consommateurs s'en plaignent.
Il y a beaucoup de difficultés.
La viande aujourd'hui est très chère. 3 000 francs le kilo de viande avec os, ce n'est pas à la portée de tout le monde. L'huile coûte très cher. Tout a augmenté.
Ça nous fait du tort parce qu'il n'y a pas d'argent. Les choses sont chères. Les viandes, les poulets, les condiments, les fruits, tout est cher.
Il est devenu très cher. Le litre coûte 1000 francs, 1100 francs.
Pendant que les consommateurs dénoncent cette augmentation, les exportateurs de bétail pointent du doigt la mauvaise politique d'alimentation du gouvernement. Selon eux, cette augmentation du prix de la viande s'explique par la faible production du coton. Aboubacar Ba, président de la Fédération Bétail Viande du Mali.
Il n'y a pas eu de production de coton. Donc, il y avait un problème d'aliment bétail. L'aliment bétail est allé à des endroits à plus de 250 ans. Il y a des gens qui mettent le feu à la brousse. La viande n'est qu'une conséquence d'une politique négative d'alimentation. Aujourd'hui, la viande que vous mangez à Bamako, pendant le mois de carême, la viande venait de la Côte d'Ivoire.
En attendant de trouver une solution à cette cherté, les consommateurs demandent aux autorités de les aider à traverser cette période.
Vous venez d'écouter ce reportage. Quel regard avez-vous sur cette situation, Abdoul Wahab Berthe de l'ASCOMA? Je commence par vous.
En fait, c'est M. Abdoul Wahab Djakite.
Abdoul Wahab Djakite.
Je ne suis pas Berthe. Bon, en fait, pour quelqu'un qui suit réellement les événements au Mali, ce n'est pas une chose surprenante. Bon, c'est lié à deux phénomènes, notamment les spéculations et l'impact de la mauvaise politique du pays. Ce sont les deux facteurs qui sont réellement la cause de ça. Quand vous prenez le Mali, on dit que c'est un pays agro-silvo-pastoral. Mais malheureusement, toutes les politiques sont destinés à satisfaire les besoins des urbains, mais pas en tenant compte de tout l'ensemble du pays, c'est-à-dire les urbains aussi bien que les ruraux. Là, normalement, l'agriculture devrait avoir trois missions essentielles au Mali. L'autosuffisance alimentaire, la production des matières premières pour nos unités industrielles et qui pouvaient nous permettre de faire l'exportation. Mais aujourd'hui, toute la politique du Mali se résume au maintien de la satisfaction des besoins du pays par l'importation. Donc ce qui fait du coup, le Mali est intimement lié au marché international dont nous ne commandons pas les leviers. Voilà, c'est quelques mots d'abord d'introduction par rapport à ce qui se passe.
Mariam Kone, vous êtes à la tête d'un mouvement populaire qui fait très souvent des manifestations au sein des marchés de la capitale. Quel est votre constat?
Bon, notre constat est que...
Déjà, êtes-vous d'avis que tout a augmenté?
Oui, je suis d'avis que tout a augmenté, que ce soit l'huile, peut-être le sucre et les riz importés, sinon... L'huile, la viande et surtout le gaz à quelques points de vente ont connu quand même une légère augmentation ou bien une grosse augmentation quand on prend le prix de la viande. Donc je suis d'avis qu'il y a vraiment une mauvaise politique pour atténuer à tous ces problèmes-là. Voilà.
Monzon connaît de la Direction nationale de la consommation, du commerce et de la concurrence. Est-ce qu'il y a flambé actuellement sur les marchés?
Merci, madame. Je donne bonsoir à tous mes producteurs qui se trouvent sur le plateau. Par de M. Wahab, de l'Atkoma et de Mme Kone. Ils sont nos collaborateurs. Donc, pour répondre, mais il va falloir faire un peu de réglage de vous poser parce que l'élément qui a été dit, je n'ai pas entendu, même l'intervention de Wahab, je n'ai pas rien dit. Il va falloir faire un peu de réglage à votre niveau pour que je puisse comprendre. Voilà. Pour répondre à votre.
Pour que vous, j'ai pas compris, pour que vous puissiez comprendre l'élément.
Voilà, l'élément, je n'ai pas saisi l'élément, même l'intervention de Wahab, je n'ai pas saisi. Mais tout. Voilà,
alors, approchez-vous du téléphone. Vous nous écoutez par téléphone. Approchez-vous du téléphone. Sinon, ouais, à notre niveau, le son est bon.
Non, je vais vous demander tout simplement de reprendre les questions. Voilà, sur lesquelles
je disais, est-ce que sur le marché, il y a flambé actuellement, M. Kone?
Voilà, merci, merci madame. Il faut relativiser les choses. Flambé, parce que nous, nous suivons trois produits de première nécessité. Sur les 13 produits, à part l'huile alimentaire et la viande, les autres sont presque stables.
Quels sont ces trois produits alimentaires avant de continuer ces trois produits alimentaires?
Non, les 13 produits alimentaires que nous suivons.
13 produits. Lesquels?
Alors, ces 13 produits sont les riz, les mil, les maïs, les sorgho, les sucres, les laits en poudre, la farine de blé, l'huile alimentaire, l'aliment de bétail, la viande avec os, les poissons fumés, les sels et les thés. Ce sont ces 13 produits que nous suivons quotidiennement pour suivre l'évolution de leur prix et faire la situation des stocks en ce qui les concerne.
Est-ce que dans vos... vous suivez ces produits, l'évolution de ces produits, y a-t-il eu augmentation ou pas?
C'est ce que j'ai dit, à part deux produits sur ces 13-là, les autres sont à la stabilité.
Merci beaucoup, M. Kone. Nous allons revenir vers vous.
Voilà, l'huile et la viande avec os. Effectivement, ces derniers jours, on prit de l'ascenseur. Par rapport à la viande, bien avant le Ramadan, dont la viande a commencé à augmenter. Et nous avons signalé derrière aux autorités.
Merci, M. Kone. Abdoulkarim Diamoutene, vous êtes docteur en économie. Dans un pays, qu'est-ce qui peut expliquer la flambée des prix?
Merci, Mme Maïga. Et merci également les autres co-débatteurs. Je crois que comme mes prédécesseurs l'ont dit, il y a deux facteurs. Il y a des facteurs d'ordre conjoncturel et il y a des facteurs d'ordre structurel. Maintenant, des facteurs d'ordre conjoncturel, il a évoqué et des spéculations pourraient être à l'objet ou des politiques conjoncturelles un peu inadaptées. Donc, exemple, la DGCC qui vient d'intervenir. Et donc, si elle doit suivre une mesure qui vise à stabiliser ou réguler le prix et que, le processus n'est pas aussi clean que ça, ça pourrait avoir des impacts. Mais ce que moi je veux dire, et mon collègue de la DGCC disait tout à l'heure que, il y a à part quelques produits, les autres sont stables. Mais quand on prend les produits dont il a fait cas, ce sont les produits de grande consommation. Exemple, l'huile aujourd'hui et la viande, pour qui connaît un peu le panier, n'est-ce pas, de consommation des Maliens. Et donc, les seuls aliments de diversification, d'enrichissement et autre chose, là, c'est le poisson, et c'est la viande, bon, l'huile, l'ingrédient de base. Donc, quand ces produits montent, ça devient un peu difficile. L'élément structurel, l'autre, c'est M. Diakité, il l'a dit. Et quand vous imaginez un pays agro-silvopastoral et que et la plupart de ces produits-là, depuis les années jusqu'à aujourd'hui, que nous dépendons fortement des importations. Dépendre des importations voudrait dire qu'on dépend des chocs survenus à l'extérieur du pays. Donc, on ne contrôle pas notre politique. Donc ceci explique en partie tous ces différents éléments, malgré les différentes politiques qu'on initie. Puisque une part importante de ces politiques nous échappe, il devient difficile que nous ayons le contrôle sur l'évolution de ces prix. Parce que même quand on se réfère un peu aux statistiques de l'Institut national de la statistique, l'INSAT, qui est la structure officielle habilitée et à collecter souvent certaines données au niveau des enquêtes nationales, l'INSAT même reconnaît, n'est-ce pas, qu'il y a une évolution entre avril et mai. N'est-ce pas? Il y a une évolution, une croissance des prix globalement. Des prix globalement. Et ce qui est encore marrant, même au niveau des produits frais, n'est-ce pas? L'INSAT reconnaît qu'environ 1,2% de variation, ça ne s'explique pas. Donc, ça ne s'explique pas au fait. Donc, il ne s'agit pas au fait que le débatteur comprenne qu'il ne s'agit pas ici de défendre une position, oui ou non. Mais il s'agit pour nous, en tant que Maliens, de trouver un consensus qui permette à chacun de sortir, mais pas pour faire le procès, n'est-ce pas, d'une structure à une autre. Pour le moment, je m'arrête là, voilà, par rapport à la question.
Monsieur Abdoul Wahab Djakité, comment comprendre cette hausse de prix alors que l'État subventionne des produits?
Vous savez, madame, déjà, quand je disais tout simplement que notre politique est axée sur la satisfaction des besoins des urbains, c'est ce qui explique cela. Imaginez un peu, on parle de l'huile. L'année dernière, la production estimée et obtenue a été de moins de 30% pour le coton. Et en ayant en tête effectivement que c'est le coton qui permet de fournir l'aliment bétail, le tourteau. Bon, maintenant il y a pénurie d'aliments bétail sur le marché. Il y a une mauvaise politique d'élevage. Finalement, bon, c'est sûr que la subvention en soi ne peut pas être une solution. Ça peut être une solution juste conjoncturelle, mais pour qu'on puisse avoir une solution structurelle, il s'agit vraiment d'élaborer une vraie politique de développement dans ce sens-là. Sinon, la subvention, là, c'est quoi? Généralement, bon, les subventions, généralement, ne profitent même pas en général aux consommateurs. C'est ça le problème.
Monzon Koulibaly, Abdoul Wahab Djakité de l'ASCOMA parle d'un réel politique de développement. On sait qu'au niveau de la DNCCC, vous organisez également des brigades qui font des contrôles inopinés dans le marché. Comment ces brigades s'organisent?
D'accord. Les brigades, voilà, avant d'arriver à l'organisation des brigades, comme j'entendais l'augmentation du prix de la gaz, effectivement. Je peux vous expliquer cette augmentation. Parce que avant de venir à l'organisation des prix gaz.
Allez-y.
Donc, aujourd'hui, nous constatons effectivement l'augmentation du prix de la gaz due essentiellement à des causes. Effectivement, c'est des causes endogènes, hein, ce n'est pas exogènes. D'abord, il y a la baisse de l'offre sur les marchés. Cette baisse de l'offre sur les marchés s'explique, comme vous le savez tous, la situation sécuritaire du pays. Vous savez très bien que les marchés de l'intérieur, je veux dire, les capitales régionales sont approvisionnées à partir de l'intérieur. Donc, à cause de l'insécurité grandissante, les éleveurs ne parviennent plus à acheter des animaux et de les acheminer vers les grandes villes de consommation. Donc, d'où la baisse de l'offre. Les bouchers, quand ils payent un bœuf à 325 000 francs ou à 400 000 francs, imaginez un bœuf. Parce qu'un bœuf qu'on paye aujourd'hui à 400 000 ou à 350 000 était auparavant vendu à 250 000, mais à 200 000. Donc, ça, c'est une cause, effectivement, qui n'est pas à négliger. C'est-à-dire l'insécurité qui a contribué à l'augmentation des prix et du bétail. Autre cause, ça, c'est l'aliment bétail. C'est-à-dire que les animaux sont nourris à partir de l'aliment bétail. La plupart des animaux emboutiers dans la grande ville sont nourris à partir de l'aliment bétail. Aujourd'hui, comme nous sommes en période de courir, chaque année, à la même période, nous constatons une augmentation
Mais si chaque année, il y a une augmentation de prix à la même période, n'y a-t-il pas des stratégies à mettre en place?
Voilà, écoutez, c'est pour cette année, c'est exceptionnel.
Et qu'est-ce qui rend cette année exceptionnelle?
Voilà, parce que l'aliment bétail est produit à partir de la graine de coton. Comme vous le savez, la campagne 2019-2020 de la CMDT, il n'y a pas eu pratiquement pas de culture. La quantité de graines de coton mise à la disposition des huileries n'a pas dépassé les 10 000 tonnes, contre 300 000 tonnes les années précédentes. Imaginez, en un mois seulement, les huileries ont fini de traiter cette quantité. D'où l'absence de l'aliment bétail aux esprits des marchés. Par ricochet, ça va jouer sur les prix aussi de la viande, conjugué aux autres facteurs que je viens de citer. L'insécurité, la diminution de l'offre, vous serez d'accord avec moi, et tout ça conjugué contribue à l'augmentation du prix de la viande. Les bouchers n'est rien dans ça. Pour que les bouchers puissent vendre les kilos à un prix compatible avec le pouvoir d'achat, il faut qu'ils parviennent à avoir les bœufs à un prix aussi abordable.
Mariam Kouné, je vous vois, vous essayez de rebondir sur ce qu'il dit. Est-ce que les facteurs, les causes dénoncées tout à l'heure qui peuvent expliquer plutôt cette augmentation de prix, êtes-vous d'accord ou pas avec?
Bon, je ne suis pas d'accord. C'est dommage. Hein. Depuis l'an passé, on parle de la pénurie de coton, graines, d'aliments bétail. Bon, les années avant la campagne 2019-2020, les mêmes problèmes ont toujours existé. C'est vrai, on peut parler aussi de l'insécurité, mais c'est ce dont le doyen parlait maintenant, c'est la mauvaise politique, parce qu'on a vu dans les années précédentes que l'État déployait des moyens pour faire parvenir le bétail à des destinations et exprimées. Ça, c'est un. De deux, il y a d'autres facteurs que les gens sont en train de taire et qui rendent tellement grave ce problème de bétail-là. Ça, c'est l'exportation du bétail. Pas plus tard qu'hier seulement, je peux témoigner qu'il y a eu plus de 6 camions de 10 tonnes remplis de bétail qui étaient en train d'être acheminés vers la Côte d'Ivoire. Donc, il y a cette politique-là de laisser aller. Quand le bétail n'est pas là, n'est pas abordable ou bien n'est pas suffisant, la viande n'est pas suffisante pour les populations, c'est à l'État maintenant de prendre des dispositions pour que le pays qui nous reste soit à la disposition des populations. Quand hier j'ai fait mes petits sondages, en Côte d'Ivoire, le prix de la viande se vend là-bas à 2300 francs.
Le kilo de la viande
avec os. Le kilo de la viande sans os, c'est à 2600 francs. Alors que
le kilo... C'est le Mali qui approvisionne ces marchés.
Voilà, c'est le Mali qui approvisionne ces marchés. Le kilo de la viande avec os ici, est vendu à 2700 francs le kilo. Sans os, c'est à 3200 francs. J'ai fait, pas plus tard que ce matin, j'ai fait mes petits sondages avant de venir sur votre plateau. Donc, qui est quand même... cette collaboration étroite entre les éleveurs et l'État pour que le peu qui nous reste là ne soit pas vendu à ailleurs. Je suis pas trop nationaliste, mais comme on le dit en Bambara, quand la tornade vient là, chacun cherche à protéger ce qu'il a sur sa tête.
Docteur Diamouténé, je vois que vous voulez rebondir ce que M. Kouné de la DNCC avait donné comme cause tout à l'heure qui peuvent expliquer cette flambée de prix.
Oui, et merci. Et je reviens encore. Et nous sommes tous là pour la cause du Mali. Mais pas pour reprocher à qui que ce soit. C'est fondamental. Moi, je suis enseignant-chercheur, docteur en économie à la Faculté des sciences économiques et de gestion. J'ai fait l'administration centrale pendant 7 à 8 ans. Je connais la DGCC, j'étais à la DNPD. Il faut que les cadres de l'administration sortent dans cette posture qui consiste à dire « je défends ma direction, je défends mon... » Nous tous, nous défendons le Mali. Quel est le rôle, la place même de la DGCC dans cette affaire? La DGCC n'est rien dans cette affaire, il faut qu'on lui dise, qu'il entende ça bien. Parce que la politique, qui parle de...
Mais c'est l'organe de régulation quand même.
Non, je vais venir. On va venir. Parce que d'abord, qui parle de politique de sécurité alimentaire, tout ça? Ce sont les sectoriels qui en sont responsables. C'est soit le ministère de l'élevage, c'est soit le ministère de développement rural, de l'agriculture, autre chose. La DGCC, c'est où? C'est après que les politiques élaborées à ces niveaux aient été une réussite que la DGCC, les actions de la DGCC seraient efficaces. Là où on peut interroger la DGCC, c'est quelle est l'efficacité réelle de son contrôle sur le terrain. Parce que les textes, le contrôle de la régularité, la conformité vis-à-vis de la législation, les textes, tout ça, ça c'est le rôle de la DGCC. Maintenant, ces actions réelles sur le terrain, quelle est leur efficacité? Je voudrais rebondir sur un aspect qu'a évoqué mon cher aîné, M. Diakité. Vous savez, ce pays il est plus que compliqué que ça. Parce que quand vous dites que c'est beaucoup plus un développement orienté vers le milieu urbain, attention, prenons le cas du coton. Imaginez que des décideurs publics, ne sachant pas le rôle structurel du coton dans l'économie malienne. Or, imaginez, ceux qui profitent du coton, la CMDT, le holding qui sont à Bamako, par-ci, par-là, ce n'est pas un milieu rural. Hein. Ceux qui bénéficient du coton, ce n'est pas un milieu rural. Le pauvre paysan n'y bénéficie pas. Mais du coup, on décide de détruire ce secteur-là au motif de son impact sur le budget de l'État. Ça, en ignorant que ça a des incidences sur l'aliment bétail, les tourteaux et consorts. Donc forcément, ça va renchérir le coût de production. Donc c'est tout à fait normal que le coût de l'aliment bétail ayant augmenté, que les éleveurs... Mais on est là pour quoi? Vous êtes là pour quoi? C'est pour avoir un meilleur revenu, etc. Donc du coup, l'éleveur aussi n'élève pas parce que vous êtes là. Il l'élève pour gagner, du coup. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait ça. Donc je crois que c'est un problème global au niveau du Mali où les politiques sectorielles sont mal conçues. Depuis les indépendants jusqu'à aujourd'hui, allez-y prendre les rapports de 1970, 80, c'est toujours le même problème. Toujours on dit l'année dernière c'était pas bon, on va refaire et l'année prochaine ce serait la même conclusion. Donc on ne bouge pas, mais qu'on en sorte. Ça, je voudrais vraiment signaler ça. Vous avez évoqué un aspect, s'il vous plaît. Vous savez, il faut sortir de là. Vous dites le bétail sur pied part en Côte d'Ivoire et il devient moins cher en Côte d'Ivoire comparativement au Mali. C'est peut-être possible, mais vous ignorez, vous et moi, les politiques publiques qui ont été entreprises en Côte d'Ivoire pour aider les éleveurs à avoir un coût faible. Mais donc, tant qu'on ignore ces politiques-là, il serait difficile de dire ici le prix doit baisser. Ici, qu'est-ce que c'est fait dans les pays développés? En général, lorsque un secteur est sensible, l'agriculture comme ça, pourquoi là-bas on subventionne l'agriculture? Parce qu'on sait que c'est vital pour la survie de tout. Donc du coup, l'État consent des sacrifices à ces secteurs-là. Mais ici, qu'est-ce que l'État consent comme sacrifice? La petite subvention qu'on a accordée aux paysans, on pense même que c'est destructeur pour le pays, donc il faut leur retirer cela. Donc on a des gens qui n'ont pas compris. Et si, parce que le discours que vous tenez, si les autorités comprennent et agissent comme ça, ou bien si vous étiez un décideur un jour, mais vous allez détruire le secteur de l'élevage. Parce que si vous contraignez les gens à rester, personne, tout le monde va quitter l'élevage. Donc au lieu que désormais le Mali soit un exportateur net de bétail, les gens vont quitter l'élevage, on va importer. Donc il faut que les autorités assument toutes leurs responsabilités, mais que nous prions pour avoir des gens, vraiment des véritables connaisseurs au niveau des différents secteurs. Et qu'on regarde pour le Mali, mais non pas des attitudes syndicalistes qui consistent à défendre mon poste ou bien à défendre ma direction. Ça, ce sont des attitudes qui ne sont pas tenables. Ce n'est pas bon, il faut qu'on arrête.
Merci. Alors, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez tantôt parlé de ce rôle de veille et de contrôle que la DNCC doit jouer. Abdulwahab Diakité, au sein de votre travail, vous défendez le droit des consommateurs. Est-ce que vous voyez l'action de la DNCC allant dans ce sens-là sur les marchés?
Voilà, mais je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, c'est-à-dire le bonheur effectivement sur les interventions de mes camarades. C'est-à-dire qu'on a toujours ce problème-là. Quand nous sommes en face de l'administration, on pense que tous ceux qui ne sont pas de l'administration sont contre le Mali, sont des apatrides. Malheureusement, oui. C'est cette idée-là. C'est pour que quand on discute avec eux, chacun défend sa structure, mais malheureusement en ignorant le Mali. Je voudrais dire à ma soeur que ce qu'on oublie au Mali, comme le docteur l'a dit, vous savez qu'il y a plus de bétail malien sur le territoire ivoirien que sur le territoire malien. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des zones de pâturage en Côte d'Ivoire. Et ici, Après 92, on les a tous détruits. Aujourd'hui, quand vous prenez Bamako, il y a une filière laitière, comme si on n'avait pas besoin de la viande. Oui. Et également, quand nous parlons effectivement des errements, pourquoi on n'a pas pu atteindre l'objectif de 300 000 tonnes? Il faut qu'on le dise. Parce que le gouvernement a erré, a hésité en oubliant le côté stratégique du coton. À cause de 25 francs, on a mis tout le pays en chose. 25 francs. 225, 250, ils ont refusé. Et finalement, on a boycotté. Et c'est ce que nous voulons comme impact aujourd'hui. Bon, pour revenir à votre question, on dit depuis 92, effectivement, il y a ce qu'on appelle la liberté de prix, il y a la libéralisation, etc., etc.
Non, avant de venir à la libération, il s'agit de ce comité de veille. Est-ce que dans vos actions...
Non, mais je vous dis, madame, laissez-moi, je vais vous dire ce qu'il y a. Il n'y a pas de comité de veille. Vous savez, je voulais juste vous faire l'historique. C'est grâce, effectivement, à la pression des consommateurs qu'aujourd'hui, on les appelle des DGCC. Dans le temps, c'était une direction nationale. Et ça a son sens. Et le docteur est bien mieux placé pour dire ce que ça veut dire DGCC. On l'a renforcé. Mais à présent, la DGCC éprouve des difficultés en matière de ressources humaines aussi bien que financières. Donc, les résultats qu'on entend d'eux ne peuvent pas être obtenus. Vous voyez, aujourd'hui, là, avant le mois de carême, on a effectivement essayé d'évaluer. Il y avait un stock suffisant, en tout cas qui nous mettrait un peu à l'abri du choc du marché international. Mais depuis qu'il y a eu des événements du 24 mai, certains commerçants ont commencé déjà à faire une rétention de produits parce qu'on pensait effectivement qu'il y aurait l'embargo contre le Mali. C'est ça également. C'est pourquoi je voulais profiter de votre micro pour dire effectivement à la DGC, en tout cas, réellement d'activer leur brigade. Parce qu'il y a rétention quelque part. Également, la politique qui a été... les subventions qui ont été données, normalement, déjà, en ce mois-ci, la viande ne devrait pas connaître ce prix-là. Si, effectivement, la subvention avait été gérée à hauteur de souhait. Voilà.
Monsieur Monzon Koulibaly, Monsieur Monzon Kone, excusez-moi, Monsieur Monzon Kone.
Malheureusement pour moi que je ne saisis pas les interventions, quand même, sauf pour, je crois, les micros de Monsieur l'économiste est bien orienté, j'ai saisi ces interventions, mais voilà, je ne l'entends pas.
Et pourtant, ici, il n'y a pas de problème. Le son sort comme il le faut. Alors, je résume. Monsieur Wahab, Abdul Wahab Diakité disait dans son intervention que la DGCC a des difficultés dans la gestion de ses brigades. Et vous avez un personnel insuffisant. Et ça m'amène à vous demander comment vous faites pour gérer vos brigades sur le terrain. Comment ça se passe? Vos sorties, vous les organisez comment?
Voilà, comme il dit, le peu de personnel qu'on a avec ça, nous menons...
Alors, vous convenez que vous avez peu de personnes?
Non, peu de personnel, il faut relativiser partout au Mali, les services publics, chacun a des problèmes de personnel. Mais le peu qu'on a, tous les jours, nous sommes en mission de tirer. Les brigades... D'abord, peut-être qu'il faut que moi je revienne un peu par rapport, parce qu'on est sur la Vienne, hein, que madame écoute, nous sommes dans un régime libéral, donc la liberté des prix. Il faut que je revienne sur ça. Parce que pour les cas précis de la Vienne, le prix de la Vienne aujourd'hui est libre. Ce que nous faisons un suivi de l'évolution. Et puis donner l'information aux plus hautes autorités pour qu'on puisse prendre des mesures. Il faut faire des subventions ou des innovations qui ne relèvent pas de nous. Mais nous faisons des suivis réguliers, donner des informations à qui de droit.
Et pour ces suivis-là, vous les faites comment? Est-ce que c'est des occasions inopinées? Ce sont des sorties inopinées ou des sorties?
Vous savez, nous sommes, par exemple, à Bamako. Bamako, nous sommes dans le district de Bamako. Il y a une direction régionale. Et la direction régionale de Bamako ne fait que des contrôles. Des régulations des activités commerciales. Au niveau central, il y a des équipes aussi. Par exemple, pour le suivi des prix plafonds, fixés par l'État. Même aujourd'hui, quand vous descendez en ville, vous allez rencontrer dans les communes de Bamako des équipes qui sont en train de veiller sur l'application d'effectivité de ces prix. Par rapport au prix du sucre, qui est un prix fixé.
C'est à combien actuellement? Ça m'amène à vous demander, le sucre, c'est à combien?
Le prix du riz qui est fixé. Le prix plafond du sucre est à 50 ans.
Et celui de la viande?
Je dis que la viande n'est pas fixée. C'est pourquoi on est dans ces problèmes-là. La viande, le prix n'est pas plafonné. Donc le boucher, quand il paye le bétail au prix, il est obligé de vendre pour se faire un bénéfice. Il ne peut pas vendre à perte. Mais quand même, nous suivons, nous communiquons chaque semaine. Parce qu'il y a une comité qui suit toutes les semaines l'évolution des prix sur le marché. Ce comité est composé de la DGCC, de la douane, des transports, de l'agriculture à travers l'office opérateur du marché qui communique l'évolution des prix.
Mariam Kone, merci beaucoup, Monzon. Est-ce que les actions de la DGC, les brigades de la DGCC sont visibles sur le terrain, ces actions?
Bon, à un moment donné, oui, pendant le mois du carême, ils étaient quand même constants sur le terrain. Mais après ça, ils ont disparu. Ils ont vraiment disparu. Et souvent, très généralement, au niveau du front, nous sommes enseignés cette mission de faire le tour des marchés. Et hier, pas plus tard que hier, j'ai essayé de les joindre pour quand même leur faire l'état des lieux, le vrai état des lieux des marchés. Je ne les ai pas eus. Donc, leur spontanéité avant, ça a baissé. Vraiment, ce que je voudrais enchaîner sur ce problème de comité de veille, il faut un sérieux dans ce travail-là. Parce que l'État ne peut pas mettre ses millions dans les subventions et tout autre. Et que le travail se fait à la légère.
Comment ça, le travail se fait?
Voilà, le travail se fait à la légère. Moi, j'étais même à l'intérieur. Parce que le Mali ne s'arrête pas à Bamako. Surtout notre front-là, le Front populaire contre la vie chère est présent dans toutes les régions du Mali. J'ai vu quelque chose qui ne m'a pas du tout plu. Donc, c'est ce que... Bon, je disais ça très souvent au directeur régional, M. Dambélé, de suivre de près. On ne peut pas être gendarme pour les suivre pas à pas, mais il faut qu'eux-mêmes qui sont des responsables soient sur le terrain, inopinément, et parallèlement à leur comité de veille.
C'est-à-dire que les brigades soient également suivies.
Voilà, que les brigades soient suivies. Vraiment, sinon, il y a des informations qui sont vraiment erronées et c'est le travail même, cette mission du front, nous sommes là pour dénoncer ça. Vous ne pouvez pas aller chez un vendeur, il y a un prix fixe qui est affiché sur les boutiques et que le vendeur vende comme il veut. Et que vous ne dites rien, ça veut dire qu'il y a faille quelque part. Soit c'est eux qui ne font pas bien leur travail, soit c'est les boutiquiers qui n'en font qu'à leur tête. Et ça, ce n'est pas normal. Vraiment.
Docteur Diamouteni, Monsieur Monzon Kone disait tout à l'heure qu'il y a la libéralisation des prix au Mali. En quoi cette libéralisation peut jouer sur l'économie nationale? Bon, l'impact de cette libéralisation, bon, déjà une bonne chose.
Oui, la libéralisation en elle-même n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est-à-dire que ça veut dire laisser le marché beaucoup plus guider les actions des uns et des autres. Parce que lorsque vous contraignez quelqu'un dans une posture, si ça ne l'arrange pas, il abandonne. Donc les économies un peu trop dirigées sont montrées leurs limites. C'est pourquoi. Maintenant, le fait que le prix soit laissé au marché, que le marché soit libéralisé, n'empêche pas les autorités de prendre des mesures publiques de soutien à certains secteurs. Ce sont ces mesures publiques-là qui réduisent les coûts. Parce que, au fait, imaginez, je dis bien, prenez que ce soit l'agriculture ou bien l'élevage, allez-y demander quels sont les appuis réels de l'État aux acteurs. Vous verrez que c'est presque nul. C'est seulement à la télé ici, ou bien dans les politiques, dans les budgets, on s'assoit à la télé pour donner à dire 10 milliards, etc. Allez-y sur le terrain. Moi, je suis un acteur de terrain. Chaque fois, souvent dans les missions d'appui, d'accompagnement, rencontrer les acteurs, vous ne verrez rien. C'est la triste réalité. Tous ces budgets-là se bouffent ici. Vous savez comment ça se bouffe? On me connaît, je vous vois quand vous parlez tout de suite là. Dites ce que vous avez vu sur le terrain. Parce que vous êtes en train de tourner, non. L'objectif de cette mission, c'est d'informer les autorités souvent qui n'ont pas l'information vraie parce qu'à travers les comptes rendus, les gens ne sont pas fidèles. Et d'autres moyens qu'ils connaissent la réalité des choses. Ce que vous avez vu sur le terrain, il faut le dire.
Je vais répondre.
Non, oui, voilà. Et donc, la DGCC gagnerait mieux à dire quelles sont les difficultés auxquelles elle est confrontée dans l'exercice de sa mission. Et sur la base de ça, nous tous, nous l'aiderons à s'améliorer. Mais si la DGCC tente de camoufler les réalités, elle ne sera pas aidée et le Mali va complètement souffrir. Donc, les responsables sur le terrain, c'est toute la réalité. Madame, partout au monde, il y a une dose de marché qui est très prépondérante dans les économies, mais il revient aux autorités de les soutenir. Quand vous réduisez les coûts de production, l'aliment bétail et d'autres facteurs, imaginez qu'avant, on vous disait dans la zone de Mopti, et c'était pas à mon époque, on vous parle de Bourgou.
De Bourgou, oui.
Où les gens, les animaux avaient la possibilité de venir manger, même s'abreuver tout. Mais allez-y voir aujourd'hui, il y a quoi là-bas? Il n'y a absolument rien. Regardez aujourd'hui, même les zones de divagation aujourd'hui d'animaux. Mais ce sont les gens souvent qui peuvent rester à Bamako ici, maintenant des titres fonciers là-dessus, barrer tout ça, les passages d'animaux. Tout aujourd'hui, tous ces éléments sont obstrués. Mais comment est-ce que quelqu'un qui dit je vais développer mon élevage, mais les différents facteurs qu'il faut pour que l'élevage soit développé, mais en même temps, il y a des politiques publiques qui essaient d'annuler ces éléments-là. Qu'est-ce que vous pensez? Au fait, nous sommes incohérents dans ce que nous voulons en tant que Maliens. Nous disons nous voulons aller à droite, en même temps, on se dirige vers la gauche et on veut arriver à droite. C'est ça la triste réalité.
Abdul Wahab Diakité, la situation est là. Est-ce que les indices que nous voyons peuvent nous rendre à nous inquiéter ou c'est encore un peu plus tôt?
Non, mais en fait, tant qu'on continuera à défendre sa structure, nous n'irons nulle part. Aujourd'hui, moi, je serais vraiment d'accord avec M. Koné en disant effectivement, nous avons des besoins en termes de ressources financières, nous avons des besoins en termes de ressources humaines. Imaginez un peu, on parle d'équipe. Moi, je les appelle les pauvres directeurs, surtout Damelé, qui est directement en contact avec nous quand il s'agit des problèmes du district. Mais tous les chefs d'antenne n'ont pas de numéro spécifique. Ils utilisent leur numéro. De là, ça pose un problème. Si réellement ils avaient des ressources en abondance, c'est sûr que tous ces chefs d'antenne seraient dotés de téléphones de travail. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Ils utilisent leur propre téléphone. Bon, envoie le nombre également, envoie le DC, ce n'est pas possible. Donc ici, moi, je pense tout simplement qu'on essaie d'élaborer une vraie politique de développement et d'éviter des politiques sectorielles. Quand le ministère de l'Agriculture dit que c'est bon, au même moment, le ministère de l'Urbanisme est en train, ou de la décentralisation, est en train de donner ces mêmes parcelles pour habitation. Ce qui est sûr, si nous continuons comme ça, dans 5 ans, c'est la Côte d'Ivoire qui va nous donner, c'est-à-dire nous approvisionner en bétail. Tout simplement à cause de leur politique.
Monzon Koné, voilà. La situation est là et vous avez entendu tantôt vos co-débatteurs. Quel est votre plan de réponse de geste? Est-ce que vous avez déjà élaboré un plan de réponse pour que la situation ne puisse pas aller au-delà de ce que nous vivons?
Moi, je constate que le débat est en train de tourner autour de la viande. Je vais revenir un peu à ce que disait Mme Koné. Je crois qu'elle n'a rien.
On est presque à la fin du débat. Oui, le temps imparti ne nous permet pas.
Par rapport au travail du comité de veille, elle n'a rien compris. Le comité de veille ne va pas sur le terrain. Le comité de veille est composé de différents...
Monsieur Koné, est-ce que vous avez un plan de réponse? On tend déjà vers la fin. Les auditeurs aimeraient comprendre. Est-ce que, au niveau de la DGCC, vous avez un plan de réponse?
Madame, vous allez me laisser parler. Vous avez dit la seule solution, c'est une meilleure organisation de la filière. la fleur bétail. Faire en sorte que les éleveurs aient accès et améliorer l'alimentation, aient accès au crédit et améliorer l'alimentation du bétail. C'est... Tous ces travaux-là relèvent d'autres départements, pas le département du commerce.
Merci beaucoup, Monsieur Koné. Vous êtes d'avis, Monsieur Diamounténé, c'est presque la fin de l'émission, qu'il faut vraiment une meilleure organisation du secteur pour réguler les prix.
C'est la seule alternative.
Mariam Koné, comment organiser ce secteur-là?
Bon. Il faut revoir la politique seulement. Pour moi, il faut revoir la politique. Il faut faire un pas arrière. Il y a 5 ou 6 ans, ça, c'était très difficile, mais ce n'était pas aussi très difficile que ce que nous vivons. Donc, il faut revoir une organisation. Il faut des projets, programmes, quand même pour la promotion des actions. Et bon, il faut faire une bonne politique.
Il faut aider les éleveurs. Que faut-il faire pour réguler la fixation des prix au Mali?
Non, il n'y a pas question de fixation de prix au Mali. Et oui, au lendemain du 26 mars, nous l'avons dit, l'État doit avoir les moyens de sa politique. Si réellement le marché doit réguler les prix, donc en ce moment, les textes doivent être appliqués. Dans ce qu'il a dit là, la loi portant protection du consommateur là, et la loi sur la liberté des prix là, la possibilité est donnée aux autorités d'intervenir en cas de concurrence déloyale ou bien de hausse excessive des prix. Est-ce que réellement cela se fait? On n'a pas ces moyens de le faire. Mais moi, pour terminer, je dirais tout simplement qu'on fasse tout pour que l'agriculture, quand je parle d'agriculture, c'est élevage ou autre là, pêche tout simplement. Jouerait les 3 missions que j'ai citées au départ. Mission d'autosuffisance alimentaire, mission de production de matières premières et finalement mission d'exportation, alors qu'aujourd'hui c'est le coton exporté. Merci.
Merci beaucoup. Et c'est sur cette note que prend fin le grand dialogue de ce soir qui était axé sur cette cherté soudaine des produits alimentaires sur le marché. Pour en parler, nos invités étaient Monzon Koné de la Direction nationale de la consommation, du commerce et de la concurrence, Abdelwahab Diakité de l'ASCOMA, l'Association des consommateurs du Mali, Mariam Koné du Front contre la vie chère, Dr Abdoulkarim Diamounténé, docteur en économie. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makara.
Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Gmoun.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.